par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
La Méditerranée, un vol de perdreaux par-dessus les champs, montait dans les nuages.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire à l'extrême pointe des temps géologiques, à la fin du Quaternaire, la période que nous vivons actuellement, une période dans laquelle une espèce, la nôtre, les humains, est en train de modifier son cadre de vie, c'est-à-dire les milieux de la planète où nous vivons, d'une manière peut-être irrémédiable. Pour parler de ces problèmes, Francis, un élu de la commune de Coulouniers-Chamiers, chargé du cadre de vie, chargé de l'environnement, chargé de la mise en œuvre de l'agenda 21, a accepté de nous parler de ces questions. Francis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour.
Francis, est-ce que aujourd'hui, après Rio, en 1992, après Kyoto, après Copenhague, après Paris tout récemment, est-ce que l'on peut encore, est-ce que l'écologie doit rester au centre de nos préoccupations ?
Oui, oui, tout à fait. L'écologie est essentielle aujourd'hui. On s'en aperçoit avec tous les rapports sur le climat qui sortent. Le réchauffement climatique est une réalité. Donc, c'est une question qu'il faut absolument traiter, oui.
Le réchauffement, quand vous parlez du réchauffement climatique, vous entendez le réchauffement climatique induit uniquement par les activités humaines ?
Toutes sortes de réchauffements climatiques. Il y a bien sûr, c'est surtout le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Mais après, il y a du réchauffement lié à. Alors, c'est insidieux parce que bon, il y a par exemple des gaz à effet de serre importants qui sont stockés pour l'instant et dû à l'activité humaine, ces gaz sont relâchés dans l'air. Alors, c'est pas directement l'homme qui les fait relâcher, mais c'est son activité qui engendre ces gaz, ces déperditions de gaz.
Qui provoque ce qu'on appelle l'effet de serre.
Voilà, exactement.
Mais tout ça se superpose, et c'est ce qui fait la difficulté de l'exercice pour arriver à démêler les causes en jeu. Tout ça se superpose à la vie propre de notre planète, puisque nous sommes dans un interglaciaire et les derniers millions d'années ont été une succession de périodes glaciaires et de périodes chaudes. Et donc, l'argument des climatos, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, c'est de dire « Ah mais actuellement, ce réchauffement, il est peut-être en grande partie naturel ».
Oui, sauf que je crois qu'actuellement, on va plutôt vers une ère un peu glaciaire. Donc, l'activité humaine contrecarre un petit peu ça, mais à court terme. Et tous les dangers sont là, c'est-à-dire que si on a un réchauffement climatique important dans ce siècle, par exemple, ça peut être irréversible. Donc, c'est ça qu'il faut combattre.
Est-ce que tout ce dont on se rend compte à l'heure actuelle et tout ce qu'on anticipe est uniquement dépendant du réchauffement climatique. Il y a par exemple, je pense par exemple à l'expansion démographique, à ses conséquences, à la lutte de plus en plus acharnée pour le contrôle des grandes ressources.
Oui, mais l'expansion démographique, bon, c'est consommer plus, par exemple. Consommer plus, ça veut dire produire des gaz à effet de serre, ça veut dire du réchauffement climatique. Donc tout est lié, toute activité supplémentaire engendre un réchauffement climatique, oui.
Voilà, ce que vous voulez dire, c'est que tout est interdépendant. Et par conséquent, comme certaines personnes disent « tout est politique », on pourrait paraphraser ça en disant « tout est écologie ».
toute écologie, effectivement. Bon, dans l'écologie, quand même, l'homme a une place importante. C'est une place essentielle. Bon, il faut aussi penser à toute la nature qui est à côté. Il n'y a pas que l'homme. Mais l'homme a une place importante. Donc, tout est écologie, oui.
Si on essaie de récapituler, quels sont, selon vous, les problèmes cruciaux auxquels nous allons devoir faire face, nous, les humains, dans le siècle qui est en train de s'entamer?
Moi, je pense que la transition énergétique de l'économie est essentielle. Et cette transition énergétique va permettre justement de régler les problèmes, de régler en partie seulement, hein, mais de répondre aux enjeux climatiques. Donc, très important, changer d'énergie, passer à des énergies renouvelables.
Parce que vous voulez dire que, si vous parlez d'énergie renouvelable, vous voulez dire que le fait qu'à l'heure actuelle, tout le système économique de la planète repose en très grande partie sur l'utilisation de combustibles fossiles, générateurs de gaz à effet de serre, fait qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et puis le réchauffement, on l'a vu, bon, il ne faut pas dépasser 1,5 degré là, pour 2050. 1,5 degré, c'est très rapide. En 2015, par exemple, on a eu 0,13 degré de plus. 0,13 degré de plus sur 5 ans, ça fait, vous voyez, presque 6%, quoi. C'est 6 degrés. 6 degrés. Donc c'était 0,6 degré, pardon. Donc c'est important. On peut le refaire, ça.
Alors, c'est d'autant plus important, et là, vous venez de mettre l'accent sur le rythme d'accroissement des températures moyennes de la Terre, que tous les experts s'accordent à dire que, bon, ce sera très difficile d'atteindre les objectifs qui sont fixés, dans la mesure où la mise en œuvre des politiques ne fait sentir ses effets que très longtemps après. Il développe la plupart du temps, ces experts, l'image du bateau qu'on dirige. À partir du moment où on donne un coup de roue de gouvernail, eh bien, il faut un petit moment, mais quelquefois très longtemps, suivant la taille du bateau, pour qu'on en sente les effets. Comme le bateau terre est quand même quelque chose d'important, eh bien, on risque d'avoir des déconvenues s'agissant de la mise en œuvre des politiques dans le domaine de l'utilisation des énergies fossiles. Quels sont les autres problèmes ?
Alors, le réchauffement climatique est lié à plusieurs problèmes, hein. Il y a d'abord, bien sûr, la consommation des gens, mais la consommation dans tous les aspects. Ces aspects, consommation alimentaire, les déplacements, c'est de la consommation aussi. Donc, on génère aussi des gaz à effet de serre. Les productions, par exemple, d'intrants pour l'agriculture, ça crée aussi des gaz à effet de serre. Donc, il faut agir pratiquement sur tous les leviers pour réduire ce réchauffement climatique. Et ce n'est pas facile parce que une fois que l'économie est partie, par exemple, bon, la population augmente, on le voit encore aujourd'hui, la Chine, qui avait un enfant par famille, veut passer à deux enfants par famille. Donc ça fera de la consommation supplémentaire et on est reparti pour du réchauffement climatique. Il y a certains pays qui n'ont pas beaucoup de voitures, par exemple. Les gens veulent leur voiture, mais ça va générer, bien sûr, du réchauffement climatique supplémentaire.
À commencer par les Chinois, qui à partir du moment où ils auront deux enfants, ne pourront plus se déplacer en famille sur une petite moto et donc voudront avoir une voiture. Ce qui est tout à fait légitime, parce que nous leur offrons, nous, les sociétés dites industrialisées et développées, occidentales, un modèle de consommation auquel ils aspirent.
Oui, mais on peut aussi modifier les techniques. La voiture, bon, on n'est pas obligé d'avoir des voitures qui fonctionnent à l'énergie fossile. On peut très bien avoir des voitures qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Bon, on peut favoriser le transport en commun, par exemple. Bon, là, il y a des choses à faire. Alors, on va peut-être parler tout à l'heure de la COP21, mais bon, la COP21 ne prévoit pas de contraintes. La COP21 n'envisage pas les gaz à effet de serre engendrés par l'aviation, par les navires. Donc à un moment donné, il faut revoir tout ça pour justement faire un bon diagnostic et puis répondre aux bonnes questions.
Quid de la course aux ressources de notre vieille planète qui est, ces ressources, elles sont limitées par la force des choses, même si la Terre est une planète qui nous paraît encore vaste, encore qu'elle soit de plus en plus rétrécie. Qu'est-ce qui va se passer si la population continue à augmenter, comme ça semble être, devoir être le cas, au moins jusque dans le milieu de ce siècle? Cette course aux ressources, motivée par le besoin de développement, entre guillemets, ne va-t-elle pas engendrer des pénuries très graves ?
Oui, alors là, effectivement, les ressources, on en recherche de plus en plus, mais on recherche surtout des ressources de type énergie fossile. Aujourd'hui, le solaire est une ressource importante, je dirais pas inépuisable, mais qui peut permettre beaucoup de progrès. Bon, il n'y a pas que le soleil, toutes les énergies renouvelables, les marées, le vent. Bon, ça c'est des ressources liées au solaire, hein, le vent, mais bien sûr. Mais le photovoltaïque, on a un potentiel énorme de ressources, et je crois qu'il faut mettre le paquet là-dessus, parce que si on mise que sur les énergies fossiles, bon, on en arrive à faire des guerres pour s'accaparer ces énergies, pour les maîtriser, et c'est pas une solution non plus.
Et puis parmi les ressources, il y a aussi les ressources minérales, il y a l'eau, qui est une ressource majeure, dont on a beaucoup débattu pour savoir si ça devait être considéré comme un bien commun de l'humanité et donc protégé à ce titre. Et puis, il y a les ressources alimentaires, tout ce qui découle de l'activité agricole et qui est justement sujet à un gaspillage de produits pouvant être nocifs pour l'environnement, pour le milieu, au nom du productivisme, c'est-à-dire de la satisfaction maximum des besoins.
Oui, oui, alors tout est lié, hein. Quand on parle par exemple de ressources alimentaires, aujourd'hui on acquiert ces aliments avec une industrie chimique importante par rapport aux engrais, aux pesticides. Tout ça, ça génère des gaz à effet de serre, alors qu'on pourrait très bien utiliser et puis mettre en place une agriculture dite bio par exemple, qui pourrait stocker du carbone. Donc par exemple, si on a des sols qui, au lieu d'avoir uniquement des engrais chimiques minéraux recevaient des engrais chimiques organiques, ça ferait un stockage important, par exemple, de carbone, et ça éviterait que ce carbone aille alimenter le réchauffement climatique.
Et quand vous parlez d'engrais organiques, vous parlez d'engrais verts ou vous parlez d'engrais générés par l'élevage ?
Je parle plutôt de matière organique, donc ça peut être des engrais verts, ça peut être, on parle de BRF par exemple, le bois raméal fragmenté, bon ça c'est de la matière organique, ça peut être, des prairies permanentes plutôt que des prairies annuelles, bon tout ça fait qu'on stocke de la matière organique. Alors après, mettre du fumier, alors bon, on se pose la question, le fumier, bon, c'est généré par des animaux qui engendrent beaucoup de gaz à effet de serre et qui font une consommation importante d'aliments. Pour faire un kilo de viande, je crois qu'il faut 4 ou 5 kilos d'aliments, donc le rendement n'est vraiment pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas passer à une autre forme d'alimentation ? Et je pense que oui. Alors bon... certains aiment la viande, moi aussi j'aime la viande, mais on peut très bien aujourd'hui avec par exemple des aliments protéinés végétaux satisfaire aussi bien le plaisir que le besoin de manger.
Alors là vous touchez à un problème que nous allons aborder maintenant, qui est celui de l'action. Vous dites que vous aimez la viande, il y a des gens qui aiment la viande, il y en a d'autres qui s'accommodent d'une ration carnée beaucoup, beaucoup moindre, d'autres qui choisissent d'être complètement végétariens. On peut effectivement agir localement, agir au niveau individuel, en mettant en œuvre une consommation qui soit économe et frugale, de manière à réduire justement toutes les aspects de la consommation qui peuvent avoir une incidence sur le climat, sur les milieux. Mais est-ce que c'est possible de convaincre comme ça, rapidement, toute l'humanité d'adopter un régime qui soit plus approprié à ménager les ressources du futur ?
Non, quand je dis j'aime la viande, bon, modérément, je mange pas de la viande tous les jours, mais je pense que avec de la formation, avec on peut très bien inciter les gens à changer un peu de comportement en termes alimentaires. Alors c'est pas facile, il faut faire goûter, il faut former des cuisiniers, mais bon, petit à petit, on y arrivera. Je pense que aujourd'hui, on peut avoir une alimentation végétale, par exemple, de très bonne qualité, avec un goût, un très bon goût, et qui peut remplacer les produits carnés.
Comment est-ce que vous allez convaincre Monsanto, Cargill, les grands éleveurs des grandes plaines américaines ou les éleveurs du Brésil de la nécessité de changer tout ça?
Alors, ça sera difficile de les convaincre, eux. Alors, il y a un moyen facile de les convaincre, c'est former le consommateur. C'est le consommateur qui fait la production. Aujourd'hui, si on ne mange pas de viande, ben il y aura pas de producteur de viande, et ainsi de suite. Donc, je crois que il faut que le consommateur, petit à petit, change de comportement. Et on le voit au niveau des communes, par exemple, on est en train de faire des repas plutôt bio, plutôt végétariens. On commence à évoluer aussi dans la restauration collective. Et c'est ce changement de comportement qui va permettre, petit à petit, à changer la production et avoir des productions moins génératrices de gaz à effet de serre.
Mais alors, ce que vous dites est terrible, parce que à l'heure actuelle, on assiste par exemple dans notre pays au combat d'un certain nombre d'éleveurs, de bovins, de porcins, qui disent qu'ils n'arrivent plus à gagner leur vie correctement. Et si on dit à ces gens-là, ben, à partir de maintenant, vous ne produirez plus des vaches limousines ou charolaises, mais vous allez faire pousser des laitues, ça va être très dramatique. Si on étend ça à l'ensemble du globe.
Non, je pense pas. Bon, l'évolution de la production se fait sur le long terme. C'est pas une question de quelques années. D'autre part, bon, il faut privilégier les productions de qualité. Il y a de la viande, du foie gras de qualité. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est l'industrialisation de ces productions qui demande beaucoup d'intrants négatifs. Voilà. Après, petit à petit, les gens passeront. Bon, aujourd'hui, on fait de la viande avec du maïs en silage. Est-ce qu'on peut pas faire de la viande avec des prairies permanentes? Donc ça, c'est un changement qui, petit à petit, se fera. La viande, aujourd'hui, on fait de plus en plus de plats végétariens. Mais ça, l'agriculteur s'adaptera aussi. Hein. Alors, ça sera pas facile, c'est sûr. Il faudra des aides. Pour ces agriculteurs, effectivement, il ne s'agit pas de les lâcher dans la nature et puis de leur dire, bon, débrouillez-vous, il faut faire ce que le consommateur veut, point. Non, il faut les aider.
Alors, ménager les ressources, en modifier l'éventail pour s'adapter justement aux conditions en les péjorant le moins possible, conditions nouvelles, créées notamment par l'expansion démographique, par ce qu'on constate qui est causé par les activités humaines sur l'environnement, tout ça veut dire que on va adopter un nouveau modèle de développement. Est-ce que l'adoption de ce nouveau modèle de développement, ce qu'on a appelé le développement durable, à savoir bon, avoir un modèle de consommation qui ménage les intérêts des générations futures? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça n'est pas une utopie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre?
Une utopie peut-être aujourd'hui, mais je pense qu'on sera obligé d'y passer par là. De passer par là, parce qu'on ne peut plus rester sur le schéma ancien de production. Donc il faudra modifier un peu ces pratiques de production. C'est important de le faire parce que on va dans le mur. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres du réchauffement climatique. On ne pourra plus, en 2100 par exemple, compte tenu de l'inertie aussi du réchauffement climatique, on aboutira à une planète qui sera invivable. Alors c'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais on y arrive petit à petit. Donc il faudra obligatoirement. Alors autant le faire petit à petit avec le consentement de tout le monde, mais à un moment donné, si ça va pas assez vite, il faudra peut-être inciter et même forcer un peu par des lois la production, des productions différentes d'aujourd'hui.
Les différentiels de développement sur notre globe sont très importantes. Comment convaincre des gens qui ont vécu dans la parcimonie, voire dans la pénurie très grave depuis des générations, et qui aspirent à notre style de vie, que maintenant il va falloir qu'ils adoptent un style de vie différent, c'est-à-dire se calquent pour, en supposant que nous adoptions nous-mêmes un style de vie plus parcimonieux? Comment les convaincre de ce qu'elles doivent renoncer à ce qui constitue à l'heure actuelle pour elles un rêve, c'est-à-dire accéder à notre modèle de consommation?
Ben, on peut y arriver en leur disant qu'il y a un nouveau rêve possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas contraindre les gens à consommer différemment, mais il faut leur donner du plaisir à consommer différemment. Et ça, c'est très important. Moi, je vois, par exemple, il m'arrive d'acheter des produits que je n'achetais pas avant. Et pourtant, je prends mon plaisir à acheter ces produits et à les consommer parce que ils sont...
Parce que vous dites que vous faites du bien à la planète?
Non, je me fais du bien à moi déjà, c'est important. C'est important aussi. Et puis, je pense à mes enfants. Donc, la planète, c'est l'avenir. Donc, c'est important aussi de dire, bon, ben, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour mes enfants. Et ça, c'est un plaisir qui est important. Et il faut le valoriser, ça.
La nécessité d'une prise de conscience aussi universelle que possible est quand même un fait établi. La prise de conscience écologique, elle est pratiquement présente dans toutes nos sociétés. Comment expliquer la faiblesse de l'écologie politique ?
Oui, alors il y a quelques sondages, il y a je crois 80 ou 85% de personnes qui pensent que le climat est un critère important et qu'il faut en tenir compte, mais ils sont 20 à 30% à dire vouloir changer de comportement. Donc effectivement, il y a un décalage entre la volonté des gens, ce qu'ils pensent, et puis la pratique. Et ça, il faut petit à petit les convaincre qu'on est obligé de passer vers un changement de comportement. C'est important.
Francis, est-ce que vous êtes satisfait très brièvement des résultats de la COP21?
Non. C'est mieux qu'avant, parce que cette COP21 a été un peu plus loin que les COP précédentes, mais ça manque d'ambition. Par exemple, il y a peu de contraintes, il n'y a pratiquement pas de contraintes, donc pour atteindre ne pas dépasser les 1,5 degrés ou les 2 degrés, il y a peu de contraintes. Et d'autre part, cette COP21 donne un objectif, l'accord sera signé qu'en 2020. Donc en attendant, bon, tout à l'heure je l'ai dit, le réchauffement climatique continue et en 2020 on aura un demi degré de plus, donc sur les 1,5 à ne pas dépasser, il y en a déjà 0,5 qui seront consommés pendant ces 5 ans. Donc c'est pas tout à fait satisfaisant. Et puis dans la COP21, on tient pas compte de certains producteurs de gaz à effet de serre que sont l'avion, le bateau, parce que le bateau, on peut penser que ça consomme pas beaucoup, mais aujourd'hui beaucoup de produits viennent de Chine et tout ça, et on consomme, on fait des gaz à effet de serre. Alors quand on dit que la Chine produit beaucoup de gaz à effet de serre, oui, certes, mais pour nous. Donc à un moment donné, il faudrait que le consommateur dise stop, on essaie de consommer plutôt local pour éviter ces gaz à effet de serre induits par notre consommation et que la Chine produit.
Et puis je pense qu'on n'est pas demain la veille de la réduction des transports aériens et des 40 000 vols commerciaux quotidiens.
Oui, tout à fait. Alors je crois que En quelques années, je crois que c'est en 2050, il est prévu une augmentation de des gaz à effet de serre par l'aviation qui passerait de 5% à 13%. Donc c'est quelque chose d'important et la COP n'en a pas tenu compte, c'est quand même dommage. Alors la COP a été sponsorisée aussi par des lobbies, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. La COP, c'est quand même un sujet très important et que la collectivité doit prendre en compte. C'est pas au lobby dont l'objectif principal est bien sûr de faire des bénéfices. On a vu des blocages, l'Arabie Saoudite qui veut pas réduire sa production d'énergie fossile, etc. Donc bon.
On va quitter ces perspectives peu encourageantes et qui montrent que la prise de conscience universelle est décidée pour faire les choses autrement est encore loin. Et nous allons revenir dans notre petite commune. Et je voudrais vous demander maintenant, Coulounier-Chamier, en quoi votre action dans la commune de Coulounier-Chamier apporte-t-elle sa contribution à l'effort universel qui devrait être engagé?
Alors la commune de Coulounier-Chamier n'a pas beaucoup de moyens, mais elle peut faire des choses. Elle fait déjà elle a des actions. Nous avons mis en place un agenda 21. Bon, l'agenda 21, c'est un programme d'action qui répond aux objectifs du développement durable. Donc on l'a fait avec la population, puisque la démocratie participative intègre cette notion aussi de développement durable. Et il y a 80 à peu près actions qu'on a décidé de mettre en place. Alors certaines ne se feront pas de suite, certaines se feront de suite, d'autres n'ont pas été prévues dans l'agenda 21, mais on est en train de les réaliser. Alors il y a des petites actions, il y a de grosses actions. Par exemple, on est en train, dans le cadre de la politique de la ville, de rénover un peu le quartier du Bachamier. Mais on va intervenir pour que le chauffage soit... Bon, c'est déjà fait. On a déjà un chauffage au bois au Bachamier. Donc c'est très important pour éviter l'utilisation d'énergie fossile. On va isoler les logements, c'est important. La première économie, le premier... Pour éviter les gaz à effet de serre, le mieux c'est de ne pas en faire. Donc si on isole bien les bâtiments, les logements, on aura besoin de moins chauffer. C'est important de passer d'abord par la réduction des consommations avant de penser à utiliser des énergies renouvelables. Il y a d'autres actions, on est en train de mettre en place. Alors, quand on parle d'agenda 21, c'est pas que l'environnement, ce n'est pas que l'écologie. C'est aussi l'aspect social, l'aspect économique. Donc, il faut voir ces trois aspects, ces trois piliers, social, économie et environnement, en même temps. Donc, par exemple, on a mis en place un jardin collectif qui permettra à quelques familles de travailler ensemble. Il y a ce lien social qui existe. Ces familles pourront se procurer des légumes, donc il y a un aspect économique. Et puis, la production de légumes se fera sans pesticides, sans intrants chimiques, donc il y a un aspect environnemental aussi. Donc avec des petites actions, on peut avancer. Et puis, alors vous connaissez l'association Colibri, donc chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Si tout le monde faisait ça, ça serait pas mal.
Francis, merci beaucoup de votre enthousiasme. Vous nous redonnez un petit peu d'espoir. Et souhaitons que tout ce que vous espérez, vous anticipez, et ce pour quoi vous vous battez, aboutisse dans des délais raisonnables. Merci.
Ben, merci aussi.
Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Par-dessus les champs, montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. panier.